Afrique, les infos à Washington.
Avec vous, Henri Francisque, midi à Ouagadougou, 14h à Bujumbura. Bienvenue à notre journal. On commence par la lutte contre les djihadistes dans le Sahel. Au Burkina Faso, 5 soldats burkinabés ont été tués dimanche dans l'explosion d'un engin artisanal au passage de leur véhicule dans le nord du pays. C'est ce qu'ont indiqué ce lundi des sources de sécurité. Selon leur compte rendu de l'attaque, un véhicule d'une unité de relève du détachement militaire de Ban a sauté sur un engin explosif improvisé dans la province du Loroum. 3 des 5 victimes sont décédées sur le coup, tandis que les 2 autres ont succombé plus tard suite à leurs graves blessures. Les attaques à l'engin explosif improvisé se sont multipliées depuis 2018 au Burkina. Le 28 janvier, 6 militaires ont été tués par cette même technique combinée à une embuscade dans la province de la Kompienga, dans le sud-est du pays. Burkina Faso, toujours au moins 24 personnes ont été tuées et 18 blessées lors de l'attaque d'une église dimanche dans le nord du pays. C'est ce qu'a confirmé ce lundi le gouverneur de la région du Sahel, le colonel Salfo Kabore. Un précédent bilan des sources de sécurité faisait état d'au moins 10 tués dans le pasteur de cette église dans cette attaque djihadiste présumée pendant le culte dominical dans le village de Pansi, dans la province de Yaga, dans le nord-est. Attaque djihadiste également au Niger. Un policier nigérien a été tué dimanche soir lors d'une incursion contre un poste de police dans la région de Tillaberi, dans l'ouest du pays, proche du Mali. C'est la deuxième attaque en une semaine contre le poste de police d'Ayourou. La première avait fait 2 morts dans les rangs des policiers au cours d'un raid mené par des djihadistes venus sur une dizaine de motos le 10 février dernier, selon les autorités de la région de Tillaberi. Violence au Mali maintenant, retour sur le nouveau massacre au village d'Ogaosagou, Peul, cercle de Bankas, région de Mopti. 50 personnes ont été tuées, 20 sont portées disparues et les dégâts sont considérables en termes de greniers brûlés et d'animaux abattus, selon un bilan provisoire de Bamako. Plus de détails avec notre correspondant Kassim Traoré.
De nouveau l'horreur à Ogaosagou. Le vendredi 14 février dernier, en fin d'après-midi, un mouvement de panique s'est installé dans ce village du centre du Mali, où l'an dernier de nombreux villageois avaient été tués. La panique qui s'est installée la veille s'explique par le fait que le détachement de l'armée malienne sur place a décidé de plier bagages, nous confie un élu local. Les populations ont supplié les forces armées de sécurité, ajoute un autre conseiller. Les assaillants ont profité de la situation pour mener une expédition sur la localité. Un rescapé témoigne que ce sont des chasseurs traditionnels. Pour lui, certains étaient à moto et se sont d'abord postés dans un village voisin. Ils ont envoyé des éclairages dans le village de Ogaosagou-Peul. Les militaires étaient déjà partis. Ils sont venus, ils ont tué, brûlé des gens. Dans la panique, des villageois se sont sauvés. En route, certains ont été tués également. Les populations n'avaient aucun moyen de défense, aucune protection. Le bilan provisoire de cette attaque est de 50 morts, une vingtaine de personnes portées disparues. Et le chef de village de conclure que les assaillants menacent de revenir à Ogaosagou. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
En Afrique de l'Ouest, toujours, en visite de travail au Sénégal, le secrétaire d'État américain Mike Pompeo s'est entretenu pendant le week-end avec le président sénégalais Macky Sall. Il a également présidé à la signature de plusieurs accords de coopération avant d'animer un point de presse avec son homologue sénégalais Amadou Ba. Lors de ce face-à-face avec les journalistes, les deux diplomates ont parlé du cadre global des relations entre le Sénégal et les États-Unis et aussi de leur importance. Compte rendu de notre correspondant à Dakar, Sedina Abagueye.
Pour sa première visite en Afrique subsaharienne, le secrétaire d'État Mike Pompeo a choisi de commencer par le Sénégal, un choix naturel et cohérent, selon lui.
Il n'y a pas un meilleur endroit pour entamer cette tournée qu'ici au Sénégal. Une démocratie dynamique, un pays culturellement et historiquement riche, les États-Unis sont fiers de compter le Sénégal parmi ses plus proches partenaires sur le continent. Un autre signe de notre amitié, ce sont ces compagnies américaines qui se précipitent ici au Sénégal. Durant notre réunion, j'ai félicité le président et le ministre des Affaires étrangères pour les nouvelles découvertes de réserves énergétiques sur vos côtes. Des compagnies américaines comme Kosmos Energy et Halliburton sont là pour aider à développer ces ressources pour qu'elles profitent aux populations sénégalaises et non des intérêts étrangers.
Les États-Unis font confiance au Sénégal car le pays remplit tous les critères d'éligibilité pour les différents programmes d'appui et de coopération des États-Unis. C'est l'avis du ministre sénégalais des Affaires étrangères. Amadouba affirme que la coopération bilatérale entre les deux pays est un modèle.
Les relations entre les États-Unis d'Amérique et le Sénégal remontent à très longtemps. Le corps de la paix est là depuis 1961, voire 62 à peu près. Mais le Sénégal a bénéficié d'un second compact. Cela veut dire qu'en décidant de prendre les impôts des Américains pour aider un pays, le Sénégal a répondu à toutes les attentes des autorités américaines et cela a servi à quelque chose. Ces ressources ont été utilisées de manière transparente. Aujourd'hui, le Sénégal est un pays aussi ouvert. Nous participons de manière vigoureuse au maintien de la paix un peu partout dans le monde.
La question essentielle de la sécurité a été largement abordée et si le Sénégal propose une participation de premier plan des pays africains, il souhaite également que les États-Unis ne se désengagent pas totalement dans la lutte contre le terrorisme en Afrique, comme l'indique le ministre des Affaires étrangères, Amadouba.
Les États-Unis nous ont fait part effectivement de leur volonté de retirer les forces combattantes. Mais cela ne signifie pas pour nous le retrait des forces américaines. Nous avons parlé des États-Unis de la nécessité d'être présents dans la zone. Nous souhaitons que les Américains soient présents dans la zone. Nous souhaitons que les Américains continuent de nous aider dans le domaine de la sécurité. Nous souhaitons que les Américains continuent de nous aider dans le domaine de la formation, dans le domaine du renseignement. Maintenant, nous respectons la position des États-Unis et c'est la raison pour laquelle il y a un adage bien de chez nous qui dit « Aide-toi, le ciel t'aidera ». Aujourd'hui, dans ces conflits, il est important que l'Afrique puisse monter en première ligne.
À Dakar, le secrétaire d'État américain n'est pas venu faire que de la diplomatie. Mike Pompeo était accompagné de plusieurs chefs d'entreprise qui ont signé des accords de coopération bilatérale. Il s'agit entre autres de l'élargissement et de la modernisation du réseau électrique, de la construction d'une autoroute de 165 km qui va relier Dakar et Saint-Louis et d'un centre médical pour les patients brûlés. Il y aura également un dispositif pour permettre au Sénégal de poursuivre ses projets de développement phares dans le domaine de l'éducation, des logements, des infrastructures et des soins sanitaires. À Dakar, Seydina Bagay pour VOA Afrique.
Au Burundi, le Conseil national pour la liberté, principal parti d'opposition, a désigné dimanche à Bujumbura son leader Agathon Rwasa comme candidat à la présidentielle prévue le 20 mai 2020. Plus de détails avec Abdourahman Dia.
À 56 ans, Agathon Rwasa, chef historique des rebelles Hutus des Forces nationales de libération FNL, est considéré comme le principal rival du général Évariste Ndayishimiye, candidat du parti au pouvoir au Burundi, issu également d'un mouvement rebelle Hutu, le CNDD-FDD. Nous sommes déjà dans une campagne électorale très dure parce que nous avons en face de nous un parti et un candidat décidés à tout mettre en œuvre pour garder le pouvoir, mais nous sommes décidés à aller jusqu'au bout cette fois, a déclaré le représentant du CNL à l'international, Aimé Maguera. Agathon Rwasa, évincé de la tête du parti FNL fin 2010 avec la bénédiction du pouvoir, avait pris la tête d'une coalition d'indépendants, Amizeroi à Burundi, ou Espoir des Burundais, devenu la deuxième force politique à l'issue des élections contestées de 2015. Il a dû créer ensuite un nouveau parti, le CNL, pour se conformer à la nouvelle constitution de 2018 qui interdit notamment les coalitions d'indépendants. Le président Pierre Nkurunziza a décidé de ne pas se représenter.
Conflit en Libye, l'ONU qualifie la situation dans ce pays de profondément préoccupante avec de multiples violations du cessez-le-feu. Jean-Roger Bion.
Malgré certains signaux positifs, la situation reste profondément préoccupante sur le terrain, a déclaré Stéphanie Williams, adjointe de l'émissaire de l'ONU pour la Libye, Hassam Salameh, lors d'une conférence de presse à Munich. La trêve ne tient qu'à un fil, avec plus de 150 violations recensées, le peuple libyen continue de souffrir, la situation économique continue de se détériorer, exacerbée par le blocus des installations pétrolières, a-t-elle souligné. Les représentants d'une douzaine de pays soutenant l'un ou l'autre des deux camps rivaux se sont retrouvés en marge de la conférence sur la sécurité de Munich pour faire le point sur les avancées un mois après la réunion du 19 janvier à Berlin. Les principaux pays concernés par le conflit avaient alors promis de respecter l'embargo sur les armes et de ne plus interférer dans les affaires intérieures de la Libye. Le chef de la diplomatie allemande Heiko Maas a évoqué la prochaine reprise du dialogue politique entre les parties au conflit attendu le 26 février après 2 ans d'interruption. Depuis avril dernier, les affrontements ont causé la mort de plus de 1 000 personnes, tandis que 140 000 ont été déplacées, selon l'ONU.
Restez à l'écoute de VOA Afrique.